Chapitre 95. Presque sans un bruit, Juna court dans l'obscurité. La migraine a totalement disparu il y a une dizaine de minutes, laissant un écho glacé dans son cerveau. Il fonce dans un enchevêtrement de toiles d'araignée et progresse dans le passage souterrain vers la lumière vacillante des bougies droit devant lui. Celle-ci se balance au-dessus d'un gros tas de couvertures posées dans une mare de sang. Sa montre, disparue il y a 3 semaines, repose sur le sol. Juna a armé son Colt combat et le tient canon vers le bas. Lorsqu'il a été formé à la guérilla urbaine, il a appris à se déplacer silencieusement et avec rapidité. Au moment où il atteint l'extrémité du couloir, il voit Mara devant une porte, son arme rouge pointée sur un paquet au sol. Juna se plaque contre le mur. Saga se tient dans l'embrasure d'une autre porte et presse la détente de son Glock au-delà du premier cran. « Mara !» dit-elle. Il fait un pas en avant et a juste le temps d'ajuster sa ligne de tir avant que Mara ne réagisse. Ses cheveux tombent sur son visage au moment où elle tourne son arme vers Saga. Mais Juna a déjà tiré. La détonation et le recul dans son épaule ne durent qu'une fraction de seconde. La douille vide est éjectée de son arme. La balle atteint sa cible. Et le sang éclabousse le mur derrière Saga. Juna pointe son arme sur Mara, mais elle a déjà disparu dans l'obscurité. L'écho de la détonation retentit dans les salles souterraines. La douille touche le sol. Juna s'élance à travers le nuage de poudre. La flamme de la bougie penche sur le côté et devient bleutée. La pièce se resserre en une sphère en verre glacé. Saga se cogne la tête contre le mur et s'effondre. 3 hélicoptères noirs balaient en formation la baie de Södertälje. Leurs ombres se projetant sur l'eau. Le puissant battement des rotors principaux résonne entre les plages escarpées. 6 opérateurs du groupe d'intervention sont suspendus à une corde sous le dernier hélicoptère. Ils portent tous un casque, un gilet pare-balles en céramique et un fusil automatique muni d'une lampe. Lorsque le phare de Kjolmsundet devient visible, les hélicoptères s'élèvent dans un même mouvement, comme s'ils étaient reliés entre eux. Ils passent au-dessus des lignes électriques, virent à gauche, puis survolent le chemin qui court à travers la forêt d'épicéa vert foncé. Ils contournent la périphérie nord de Södertälje, puis se séparent au niveau de l'autoroute. Le premier passe au-dessus de la montagne de Torekelberget, réduit l'angle d'incidence des pales et poursuit au-dessus du château d'eau. Une forte rafale de vent le fait dévier vers la gauche, mais le pilote a le temps de compenser le mouvement. La lumière des projecteurs vacille sur le béton. L'engin stationne au-dessus du sommet tandis que 6 opérateurs sont déposés sur le château d'eau. Ils descendent en étoile, comme dans une sorte de chute lente, décrochent leur harnais et sautent sur le toit. Le 2e hélicoptère se positionne juste au-dessus de l'autoroute. À l'avant de la cabine, un tireur d'élite sanglé est assis, les pieds appuyés contre le train d'atterrissage. Le 3e hélicoptère effectue un large virage au-dessus de la colline de Fornhöjden. Les opérateurs se balancent dans les airs au bout de la corde. Le mécanicien navigant réduit l'oscillation d'un mouvement de pied sur la corde. Le grondement du rotor principal s'intensifie au fur et à mesure que la vitesse diminue. L'appareil descend au bout de la route Alpwegen, de l'autre côté d'une clôture de barbelés. Les arbres et les buissons s'écartent en tremblant sous l'effet du vent. Les opérateurs descendent au niveau de l'allée d'une maison barricadée. Le premier atteint le sol, détache le crochet de son harnais et maintient la corde. C'est alors que le rotor de queue s'enfonce dans la couronne d'un bouleau. La corde lui est arrachée des mains. Le 2e opérateur est projeté sur le côté. Une pluie de feuilles déchiquetées tombe sur l'hélicoptère. L'appareil bascule, puis redevient stable. Les uns après les autres, les hommes atteignent le sol, se libèrent de leur corde et courent prendre leur position. Le terrain appartient aux forces de défense finlandaises. Il a été aménagé pendant la guerre pour accueillir des véhicules de transport de troupes, mais le système souterrain n'a jamais été utilisé. L'entrée est dissimulée par un grand garage doté de hautes portes pliantes en acier. Les 6 opérateurs s'avancent. La serrure a été percée, et le chef d'équipe fait signe à ses hommes de se disperser sur les côtés. La flamme de la bougie vacille, s'étire, puis redevient orange. La pièce prend de l'ampleur et les murs en béton se stabilisent. La mare de sang s'élargit sous Saga. Son Glock gît sur le sol à 1 mètre d'elle. Les pas rapides de Mara disparaissent dans l'obscurité du passage. Juna sort son poignard et s'agenouille devant elle. Saga ouvre les yeux. Respire avec difficulté et le regarde avec confusion. Cécile tremble et la sueur coule sur ses joues. Il déchire son t-shirt, révélant la blessure par balle dans son épaule. Le sang s'en écoule abondamment. Juna. Putain. Je suis pas impliqué dans tout ça. Allait-elle. Je sais. Il découpe son t-shirt en deux, forme de bande de coton, et utilise l'élastique de la lame frontale pour faire un garrot de fortune. Elle gémit de douleur et le regarde à nouveau. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'as tiré dessus si tu... Je vais revenir, dit-il en se levant. Fais attention. Quand tu la suis dans une pièce, elle arrive toujours à se retrouver derrière toi. Juna poursuit Mara dans le passage sombre en direction d'une faible lumière qui luit le long d'un mur et donne au béton un aspect mouillé. Le claquement de ses pieds nus sur le sol s'estompe progressivement. Juna sait qu'elle l'a désigné comme étant la dernière cible de la série de 9 meurtres. Mais ce n'était qu'un piège. Une toile d'araignée collante. Mara en revient toujours à Saga, que ce soit dans les séquences filmées du psychologue ou dans ses protocoles écrits. Mais elle n'a jamais mentionné Juna. Pas une seule fois. C'est la raison pour laquelle il a compris qu'il ne pouvait pas être la cible finale, quoi qu'en disent les cartes postales. Il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit que de Saga.